Nous allons parler de la Vierge Marie. Nous sommes à Lourdes d'après les sources syriaques. Il y a comme un trépied des sources bibliques. On peut plus s'appuyer pour l'Ancien Testament seulement sur le texte des rabbins, massorètes, ça veut dire les rabbins traditionnels, ni pour le Nouveau Testament seulement sur le texte grec qui sert de base à toutes les Bibles en langue occidentale. Benoît XVI a demandé à l'École biblique et à l'archéologie française et à tous les exégètes catholiques, en réalité, de respecter davantage les traditions de transmission. Arrêter de diviniser un état unique du texte parce que ça nous transforme un peu en fondamentalistes. Dieu a voulu qu'il y ait une polyphonie des sources pour qu'on le cherche selon l'esprit et non pas dans une vérité seulement littérale, comme font malheureusement les islamistes et malheureusement aussi certains chrétiens fondamentalistes. Nous avons 25 000 manuscrits du Nouveau Testament. Donc, toutes les Bibles modernes actuelles, même les catholiques, malheureusement, pour le nouveau, ne s'appuient que sur une version unique et seulement en grec, qui est un patchwork moderne artificiel. Ils ont piqué des morceaux d'un peu partout. Ça s'appelle Nestlé Allant, 28e édition. C'est un travail d'études scientifiques admirable, mais ce n'est pas satisfaisant. Ce n'est pas respecter l'histoire de la transmission depuis 2000 ans. De qui avons-nous reçu les Écritures? Eh bien, de 80 générations, nos pères dans la foi qui nous ont précédés. Et quand Jean-Paul II parle du poumon oriental de l'Église, il ne parle pas de Athènes et Rome. Il cite le poète russe Ivanov, au début des années 1950, qui parle du poumon des chrétiens qui sont à l'est de l'axe Antioche-Jérusalem. Les chrétiens de langue araméenne donc, ne sont plus que 20 millions aujourd'hui de survivants dans le monde. Beaucoup sont en diaspora. Au Moyen-Orient, en ce moment même, ils sont en train de disparaître, malheureusement. Mais jusque Genghis Khan et Tamerlan, vers 1400, ils étaient plus nombreux que nous, les chrétiens occidentaux. Nous avons un peu trop tendance à nous enorgueillir et à nous regarder le nombril, mais ce n'est pas la seule source de la parole de Dieu. En introduction, je vais juste vous montrer une toute petite vidéo de présentation de cette nouvelle édition que nous avons réalisée avec l'École biblique et archéologique de Jérusalem, donc les héritiers du vénérable Père Lagrange. Et ensuite, nous parlerons davantage de Marie d'après ce point de vue-là syriaque. Donc, ce trépied des sources, principalement, c'est les traditions hébraïques araméennes, les traditions grecques et les traditions latines. Il y en a d'autres, hein, mais ce sont les trois principales en nombre de manuscrits. Il y a aussi, il faudrait prendre en compte aussi le copte, le géorgien et l'éthiopien, parce que sont trois, et l'arménien, sont des langues très anciennes d'église qui ont précédé évidemment le christianisme occidental. Quand les franchouillards, on arrive, on leur dit « nous sommes la fille aînée de l'église », ils se roulent par terre en rigolant. Ils ont été christianisés bien avant nous. Et donc, ils ont des sources anciennes qui n'ont jamais encore été vraiment utilisées pour les éditions bibliques.
L'origine des évangiles en syriaque. Le syriaque est une évolution de l'araméen qui apparaît oralement au IIe siècle avant Jésus-Christ et dont la première trace écrite est identifiée par l'épigraphie dans l'inscription de Biréchik entre Antioche de Syrie et Édesse. Dans le groupe des langues sémitiques, le syriaque des évangiles fait partie de l'araméen du Nord-Ouest. Ne devient qu'une forme classique jusqu'au 8e siècle après Jésus-Christ, avant d'évoluer quand on donnait diverses formes de dialectes néo-araméens modernes. Le Christ a été rapidement annoncé à l'oral comme à l'écrit, dans toutes les directions des modes de communication, donc en particulier vers l'Occident, et par les voies du croissant fertile vers l'Orient. Les apôtres et évangélistes ne sont pas partis des mains vides, et l'archéologie révèle les premières églises construites en tant que telles en Mésopotamie à la fin du IIe siècle, avec des évêchés. Certaines de ces communautés n'acceptèrent pas les conciles imposés en grec, difficile à transposer du grec indo-européen vers le syriaque, sélitique, avec de plus quelques ingérences de l'empereur de Byzance. Ils se séparent donc lors des conciles d'Éphèse, 431 et Chalcédoine, 451, mais d'autres restèrent toujours unis avec l'évêque de Rome, où se réunirent avec lui à partir du XVIe siècle. Et ces églises annoncèrent l'évangile jusqu'en Afghanistan, en Turkestan, en Chine, en Malaisie, en Indonésie et au Japon, avant de disparaître en grande partie, notamment à partir de Gengis Khan et Kamerhuant. Le monachisme s'y était répandu. Il diffusa une version ancienne des évangiles, appelée depuis sa découverte au XIXe siècle, la Vetus Sira, par analogie avec la Vetus Latina, précédant la Vulgate. À la même époque que Saint Jérôme, pour son travail en latin, début du Ve siècle, Rabula d'Edes, évêque, réalisa en syriaque et uniformisa les évangiles de son temps, en se référant aux manuscrits grecs byzantins qu'avaient diffusés en particulier Eusèbe et la Thamas. En syriaque, c'est ce qu'on appelle la Peshitta, une version simple standard. La Vetus Sira disparut de la liturgie, mais subsista partiellement et occasionnellement, comme la Vetus Latina aussi, jusqu'au début du deuxième millénaire. Et les deux principaux manuscrits sur les cinq actuellement connus de la Vetus Sira furent conservés grâce au monachisme à Sainte-Catherine du Sinaïde et au monastère des Syriens dans le désert égyptien du Wadi Natroun, non loin des lieux de Saint-Antoine le Grand. Un orientaliste diplômé d'Oxford en 1842, missionné par le British Museum, William Curtin, découvrit dans ce dernier monastère du désert d'Alexandrie le premier exemplaire, un codex portant désormais le nom de Cyrus Curtonianus et conservé à la British Library de Londres. En 1892, 50 ans après, les deux jumelles Lambuis, Biblis, paléographe et exploratrice, c'était des érudites, elles connaissaient 12 langues chacune, Agnes Lewis et Margaret Dunlop Gibson découvrirent le deuxième manuscrit presque complet des quatre évangiles, le codex Cyrus Symmaticus, sur un palimpseste de Sainte-Catherine du Sinaï, dans la bibliothèque duquel il est conservé. Les deux sœurs employèrent des révélateurs chimiques pour lire le texte caché sous une réécriture du Vide-Saint, ce qui a un peu avivé cette peau d'agneau, mais il est le plus ancien et le plus complet. En 1975, un effondrement de l'Uraï et de l'église de la Transfiguration à Sainte-Catherine du Sinaï permit de découvrir des fragments de deux autres manuscrits de la Vetus Sira et un équipement d'imagerie multispectrale conçu à l'Université de Californie de Los Angeles en 2016 pour déchiffrer les palimpsestes a permis à un chercheur autrichien, Judy Kessel, d'en déchiffrer un cinquième de la lymphalie. On projette des dizaines de couleurs différentes, un infrarouge et ultraviolet inclus, sous plusieurs angles, et un logiciel Fenasong des microdifférences. À côté, 350 manuscrits de la Peshitta et quelques dizaines de lectionnaires en syriaque palestinien et syriaque classique permettent d'effectuer des comparaisons. Parmi les quatre grands regroupements ou familles de manuscrits du Nouveau Testament, le texte de la Vetus Sira relève surtout du titre 4, Thèse occidentale, avec aussi quelques éléments du groupe 3, dit Césarée Prog, la Terre Sainte. Dans la redécouverte des grandes traditions historiques de transmission du texte des évangiles, la Vetus Sira apparaît ainsi très complémentaire du texte latin antique. Saint Géraud traduit pour la première fois dans le projet parallèle Bible-Art, une autre émanation du travail de l'École biblique et archéologique française de Jérusalem est actuellement disponible en support numérique sur ordinateur et téléphone. Les Saintes Écritures sont en effet une polyphonie, ce qui évite en passant le piège du fondamentalisme, car il n'existe pas une version originale unique tombée du ciel des évangiles. La Vetus Sira livre une version dont la langue et le contexte historico-géographico-culturel les plus proches de l'araméen judéo-occidental et du judaïsme de Jésus. Le but de ces travaux est de rendre la parole de Dieu accessible à tous en respectant son historicité, la diversité de toutes ses sources anciennes et la manière dont les témoins des premiers siècles l'ont compris.
Je vous montre une image de la machine qui a été installée dans la bibliothèque de Sainte-Catherine du Sinaï, donc c'est l'Université de Californie. Donc la machine se trouve en haut à gauche, elle fait le tour du manuscrit, on essaie de manipuler le moins possible ces textes très anciens et fragiles, et la photographie numérique avec des spots de couleurs associés fait ainsi des dizaines d'images et on additionne ces différences et on peut ainsi lire beaucoup de choses. Nous avons du pain sur la planche, les exégètes actuellement, grâce à cette nouvelle technologie. Cette année, ils ont parlé de la publication de 42 pages de Saint Paul. Alors, ce n'est pas une nouvelle épître, mais ce sont des éclairages complémentaires. Sur les 3700 versets du Nouveau Testament, la Vetusira, l'ancienne syriaque, présente 1562 différences. 1562 ne sont pas des grosses différences, mais dans l'ensemble, ça montre un Jésus qui est le même que dans les évangiles d'après le grec, mais plus historique. Il est plus facile de se le représenter et donc d'entrer en relation avec lui. Parce qu'une langue façonne une vision du monde et une pensée même. Et donc, le grec, depuis 5 siècles avant Jésus, est façonné par la philosophie. Tout de suite, pour décrire la même réalité, le grec passe à l'idée. Alors que si vous, tous ceux qui ont fait un petit peu d'hébreu se rendent compte, dès les premiers cours, l'hébreu, tous les verbes en particulier, viennent d'images et de gestes concrets, d'actions palpable de la vie quotidienne. Et donc, il est plus facile de se représenter le Christ et il y a moins le risque de tomber dans les hérésies gnostiques, c'est-à-dire un Christ maître de morale, un sage philosophe comme tant d'autres, mais finalement, s'il n'est que ça, c'est pas intéressant. Le judéo-christianisme ou le judaïsme, puis son accomplissement, le catholicisme, c'est vraiment la foi de l'incarnation et s'appuyer sur ces sources-là, ça aurait évité pas mal d'erreurs, même avec nos frères byzantins, notamment le fameux article de Filioque, l'esprit procède non seulement du Père, mais aussi du Fils. Ça vient d'une différence de traduction entre les évangiles en grec et les versions latines. Mais le syriaque réconcilie ces deux positions. Ce terme procedere, procéder, vient de Jean 15, 26 en latin. Procéder, ça veut dire aller au-devant. Alors que le grec dit pas procéder, il dit l'esprit sort ou va au-devant du Père, ek porein. Et donc, en s'appuyant sur des petites différences, nous, ça peut nous paraître des détails, mais on aboutit quand même à une division dramatique, 350 millions de chrétiens coupés de la communion avec le successeur de Pierre pour des affaires de langue. Et les autres différences que nous avons avec nos frères byzantins, ça repose très souvent aussi sur ces questions d'interprétation. Alors, nous allons parler maintenant de l'enseignement spécifique de ces 4 évangiles au sujet de la Vierge Marie. Je souhaitais aussi rappeler l'importance de travailler mot à mot la parole de Dieu. Ça, c'est Benoît XVI dans son exhortation post-synodale Verbum Domini en 2010 qui a bien rappelé cet impératif pour chaque fidèle. Jamais l'Église, il n'y a aucun texte du magistère en 2000 ans qui a interdit la lecture aux chrétiens. C'est une calomnie qu'on entend souvent, ça nous vient des philosophes anticléricaux du XVIIIe siècle, ça a été repris aussi par certains protestants, mais nulle part cela a été interdit. Thomas d'Aquin dit « Jésus nous ouvre son cœur dans les pages de l'Écriture sainte ». Et Thérèse de l'Enfant Jésus aussi, qui la connaissait sur le bout des doigts, on a retrouvé plus de 1000 citations dans ses carnets, donc il faut arrêter de dire qu'elle ne lisait pas la Bible, c'est absurde. Elle dit dans sa lettre 165 « Gardez la parole de Jésus ». Voilà l'unique condition de notre bonheur, la preuve de notre amour pour lui. Je ne trouve plus rien dans les livres, si ce n'est dans l'Évangile. C'est-à-dire, quand on s'est pas mal rapproché de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on va jamais mépriser la culture, au contraire. Mais quand on a l'accès direct, par exemple, moi, j'aimais bien le cinéma dans ma jeunesse, mais aujourd'hui, je trouve ça tellement insipide devant Éphésiens 3,19 qui dit « L'amour du Christ surpasse tout ce qu'on peut connaître ». Et frères et sœurs, la seule source de l'amour, c'est la foi. L'amour et la confiance se nourrissent mutuellement. Et la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu, Romains 10,19. Donc avoir une bonne Bible d'études et travailler un petit peu le texte chaque jour et noter ce que l'on comprend. Le psaume 62,12 dit « Une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu ». Ça veut dire qu'il n'y a jamais une interprétation unique du texte. Il y a cette polyphonie des sources, cette polygenèse des Écritures qui ne sont jamais un roman écrit à la manière moderne de la première à la dernière page. En 3 mois, c'est terminé en branle à l'éditeur. Ce sont des compositions qui ont mis parfois des siècles même pour certains livres de l'Ancien Testament. Et donc, dans l'interprétation de l'Église, parce que c'est seulement à l'Église, pas uniquement les évêques, mais ceux qui sont en communion avec Pierre et les autres, qui a eu cette faculté d'interpréter et cette mission d'enseigner. Jésus dit seulement à Pierre, en Matthieu 16, 18, « Tout ce que tu auras délié et lié sur la terre sera délié et lié dans les cieux. » Et deux chapitres plus loin, Matthieu 18, 18, il étend cette faculté-là aux 11 autres, à tous les autres apôtres et successeurs. La succession apostolique aussi, elle est fondamentale, elle est révélée en Actes 13, 3. Cette faculté de lier, ça veut dire mettre les versets ensemble pour donner l'interprétation juste. Ça, c'est très clair dans la mentalité juive et syriaque. Ce n'est pas uniquement qu'une histoire de démons à lier ou délier. C'est aussi lier les gerbes de blé ensemble pour l'Eucharistie et lier les versets ensemble pour leur interprétation. C'est ce que nous allons pratiquer maintenant au sujet de Marie avec cette lecture syriaque et araméenne. Un dernier verset pourrait éclairer cette approche que nos cousins juifs, on les appelle cousins parce que le frère aîné, c'est un peu le salopard dans l'écriture, pardonnez-moi l'expression, dans tous les frères aînés. Et donc, nous sommes co-héritiers du peuple de l'Alliance, non pas selon la chair, mais le Saint-Esprit, grâce au baptême. Donc, on peut les appeler nos cousins. Ézéchiel, la fameuse vision du char céleste, dit qu'il avait quatre visages, donc au moins quatre sens des Écritures. Il y a des midrashim, des commentaires juifs, qui disent qu'il y a au moins autant de sens pour chaque passage que de nations sur la terre, c'est-à-dire 70 nations, comme les 70 ou 72 disciples, le symbolisme est le même. Donc tout d'abord, je vais vous proposer des figures de Marie pour mieux connaître Marie. On connaît un personnage ou une réalité par les autres personnes ou réalités qui ont le même nom dans l'Écriture. Et donc, avant Marie, il y a évidemment Ève. Ça, c'est une interprétation très ancienne depuis Saint-Irénée, créée immaculée. Ève aussi, hein. Marie n'est pas la première immaculée. Elle est la première immaculée conception. Jésus lui-même est éternellement immaculé. Mais Ève aussi a été construite. C'est le verbe hébreu employé. Construite, c'est le verbe de l'intelligence. Immaculée, avant la chute, mère des vivants. Deuxième figure de Marie, après celle d'Ève avec la chute par l'arbre du jardin et Marie, la nouvelle Ève, au pied de la croix, c'est Sarah, qui est matriarche, mère du fils de la promesse, qui sera offerte en sacrifice. Donc Sarah, épouse du père de la multitude. Vous avez ensuite Rachel, femme d'Isaac, qui pleure sur ses enfants et qui est une force d'intercession pour eux. Jérémie 31, 15. C'est important de connaître ces personnes de l'Ancien Testament pour fortifier notre foi et creuser chacune de ces figures. C'est la clé que donne Paul. 1 Corinthiens 10, 6. On trouve ça aussi dans l'Épître aux Romains. Toutes ces figures, ces événements s'accomplissent dans la Nouvelle Alliance. Ça n'ôte pas la valeur historique et littérale de ce qui s'est passé dans la Première Alliance, mais comme dit saint Augustin, la Torah, la loi, l'Ancien Testament, était enceinte de la Nouvelle Alliance. Elle portait en elle ce qui allait naître. Après Rachel, vous avez Myriam, sœur de Moïse, qui danse après la Pâque, donc c'est la joie de la résurrection. Vous avez l'Arche d'Alliance qui porte les trois objets, selon Exode 25, et c'est rappelé un peu pour les amnésiques dans l'Épître aux Hébreux, une part de manne, comme Marie qui porte en elle le pain de vie, le bâton d'Aaron, comme le Christ qui est le bon pasteur, et les tables de la loi, elles portent le Verbe divin. Donc ce n'est pas une pieuse dévotion de dire dans les litanies de la Vierge « Arche d'Alliance », c'est vraiment de fondement biblique, donc c'est crédible dans l'interprétation de l'Église. Déborah aussi, au Livre des Juges, il est dit d'elle, elle est élevée comme une mère au milieu d'Israël. Il n'y a pas beaucoup de femmes dont on peut en dire autant. Et Déborah est celle qui permet la victoire. Elle n'est pas le salut elle-même, hein, ça, Saint-Irénée est très clair, le Christ est l'unique salut, mais Marie est la cause du salut, causa salutis. De même, Déborah organise la victoire de tout le peuple du Seigneur contre les Cananéens, avec une grande bataille de chars au pied du mont Tabor. Yael aussi, qui est un peu l'ancêtre du Mossad, les services secrets, parce qu'elle séduit le général ennemi au moment d'aller avec lui sous la tente. Elle lui plante un piquet à travers la tempe, dans le cerveau. Alors, ça ne veut pas dire que Marie était violente comme cela, mais contre le diable, si, elle l'écrase par son pied. Genèse 3.15, dans la version latine. Elle est aussi cause du salut. La toison d'or où descend la rosée céleste du livre des juges, c'est une image de l'Esprit-Saint qui est descendu sur la Vierge Marie pour le salut du peuple, avec la victoire de Gédéon. Vous avez la prophétesse Anne qui reçoit l'annonce de son fils consacré, Samuel, comme Marie au moment de l'Annonciation. Ruth, qui en hébreu veut dire aussi l'ami au féminin, la femme de Boaz, l'ancêtre du Messie. Elle est l'arrière-grand-mère de David. Et elle récolte le blé. Elle recueille déjà ce qui permettra le pain de vie. Elle a cette très belle phrase qui nous éclaire dans notre relation au peuple d'Israël selon la chair. « Votre peuple sera mon peuple, votre Dieu sera mon Dieu. » Donc c'est une païenne, hein, comme nous les Gaulois ou les Francs, ou d'autres origines, et elle est associée à la chair du peuple d'Israël. Elle enfante le Messie. Alors qu'en théorie, c'était interdit. Ils n'avaient pas le droit d'épouser de femmes étrangères, mais Dieu permet tout à fait des exceptions. Il n'y a que le diable qui est légaliste. La bien-aimée du Cantique des Cantiques, qui est le livre résumé de toutes les Écritures, beaucoup de saints, enfin des rabbins et ensuite les saints du Carmel, demandaient d'entendre ce livre. Saint Bernard aussi, une école cistercienne, avec son merveilleux commentaire du Cantique. C'est l'image, le plus beau chant d'amour de l'histoire entre notre âme et le bien-aimé qui est Dieu. Donc, ça annonce Marie comme rose de Charonne, c'est la plaine méditerranéenne d'Israël, le lys des vallées, l'immaculée. Alors, c'est pas une invention de dire, de proclamer le dogme en 1854. C'est révélé, Cantique 4.7 et 5.2, tu es toute belle, immaculée, amica mea, mon amie. Alors ensuite, l'interprétation de dire, ça décrit la Vierge, ça c'est l'interprétation de l'Église. Mais à qui appartient l'interprétation? C'est à eux seuls qu'est donnée l'autorité, la faculté de lier et délier. C'est à eux, les apôtres, que le Christ dit en Matthieu 28-19, « Allez enseigner toutes les nations, faites des disciples ». Les autres aussi sont appelés à le faire, mais par participation et en communion. Le terme « dogme » vient aussi des Écritures, et ça, on doit vraiment être capable de répondre. Beaucoup de nos contemporains sont perdus, parce que les clercs dont je suis, malheureusement, ont fait une catastrophe dans la transmission de la foi. Mais enfin, de façon générale, à partir de la fin du XXe siècle, les catholiques, on est les plus nuls du monde en transmission de la foi, c'est dramatique, avec les juifs qu'on appelle du mouvement conservatif ou libéral, c'est-à-dire pas les juifs haredis orthodoxes, mais les autres, il y a un énorme échec qui se constate sociologiquement dans la transmission de la foi. Et or, la mission depuis le Deutéronome et Lévitique, c'est d'aller enseigner à ses enfants, de transmettre. Et si on ne fait pas, personne d'autre le fera à notre place. Il ne faut pas trop compter malheureusement sur l'enseignement catholique, même s'il y a beaucoup de personnes de très bonne volonté. Mais vu qu'il n'y a plus qu'un 1,8% de pratiquants en France, les plein de directeurs, simplement, ils ne trouvent pas de catholiques. Ils voudraient bien. Et bon, il y a eu aussi de grosses erreurs dans les nominations dans les années 70, 80 et suivantes. Mais le fait est que rarement la foi se transmet à l'école. Alors, il y a un début de rattrapage, hein, heureusement. Et puis, il y a des endroits où ça se passe très bien aussi. Mais en moyenne, le résultat, on le constate quand même. Le dogme, ça se trouve en Actes 3, ils étaient fidèles au dogme des apôtres, ça veut dire à l'enseignement des apôtres. Il s'agit de la première église. La reine de Saba, qui est aussi figure de Marie, 1 roi chapitre 10, évoqué en Luc 11, 29. Il vient à la rencontre de David, peuple d'Israël. La Shunamite, 2 rois chapitre 4. Esther, qui est cause de salut, dans la version hébraïque du livre d'Esther, il n'y a pas une seule fois le nom de Dieu. C'est très étonnant. Alors la version grecque, si j'en rajoutais de longs passages, où Dieu est abondamment nommé, mais parce que ça fait partie de l'histoire du peuple d'Israël. Et Donc Esther permet que son peuple soit épargné, comme Marie permet que notre âme ne meure pas complètement dans le péché, et le salut vient par le roi. Judith, infiltrée au combat, ça fait partie des livres que nous appelons les deutérocanoniques, ça veut dire du deuxième canon, le canon. Ça vient dans toutes les langues anciennes de la canne à sucre, enfin le roseau, la canne. Et parce que c'était un étalon de mesure, ce qui est droit. Et donc, quand on dit deutérocanonique, ça veut dire de la deuxième liste des livres, les sept livres qui étaient en grec pendant de nombreux siècles, mais alors manque de peau pour les chrétiens fondamentalistes qui les ont écartés de leur Bible, qui n'ont plus de 66 au lieu de 73 livres. Alors, les manuscrits de la Mère Morte, on les a tous retrouvés. Donc, ils sont un petit peu mal. Souvent, c'est par anticatholicisme. Hein, on a écarté à partir du XVIIe siècle, hein, ça ne s'est pas fait tout de suite, les livres qui nourrissaient un peu trop la tradition catholique romaine ou orthodoxe. Donc, nous avons des frères chrétiens qui rejettent ces livres-là en les appelant, ces méprisants, apocryphes. Ça veut dire éloignés, cachés. La femme du fort du fameux chapitre Proverbe 31, qui la trouvera? Elle est beaucoup plus précieuse que les perles. Et enfin, le trône de la sagesse éternelle, sagesse 9.4, c'est Marie, parce qu'elle porte sur ses genoux, et avant ça, en son sein, le logos divin. On a dit l'autre jour que le logos et la sophia, c'était la même personne. C'est le fils dans la Trinité. Alors, ça ne signifie pas que ces 18 figures désignent uniquement la Vierge Marie, mais l'interprétation majoritaire des pères de l'Église, et donc de la tradition depuis 2000 ans, c'est de les associer spécialement à la Vierge Marie. Il n'y a jamais une lecture unique. Là, on tomberait vraiment dans un fondamentalisme. Il y a toujours une multiplicité de sens. Nous allons voir maintenant des titres mariaux d'après ces évangiles syriaques cités par des pères de l'Église d'Orient, qui sont malheureusement très peu connus. Heureusement, les papes, depuis Jean-Paul II, Benoît XVI, les ont intégrés. Nous, en français, nous sommes très gâtés aussi par la merveilleuse collection Sources chrétiennes depuis 1941. Le projet de rendre accessible, avec un texte fiable, préparé scientifiquement, l'ensemble du corpus, c'est-à-dire de la bibliothèque, des textes des pères de l'Église depuis l'Antiquité. Donc le projet, il y a 1100 titres à publier, on en est actuellement aux 657, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a encore pas mal de travail. Beaucoup d'éditions sont bilingues, pas toutes. Enfin, la base au moins est en français et on a accès donc à ces terres. Mais il y a très très peu de volumes de couleur rouge, ceux qui désignent ce poumon oriental de l'Église, les chrétiens d'Orient. Pape Léon XIV a dit qu'allait être proclamé docteur de l'Église, un des pères orientaux d'une église des trois conciles, donc les églises qui n'ont pas accepté Chalcédoine. C'est un père arménien qui s'appelle Nersès Schnorali, fin du premier millénaire. Ça avait déjà été fait pour Grégoire de Narek. Ce sont des pères qui ont une lecture beaucoup plus proche des événements historiques de l'Évangile et de l'Incarnation. Parce que nous, en Occident, et surtout depuis un certain Occam, qui était un saint homme, hein, mais qui a fait cette erreur de dire la réalité, elle est dans les noms, ce qu'on appelle le nominalisme. Au lieu de rester un peu dans la filiation d'Aristote et de Thomas d'Aquin, la réalité est d'abord dans ce que l'on peut percevoir, parce que nous sommes des êtres de chair, Dieu nous a confié nos cinq sens, et il passe par là. Et donc après Occam, il y a eu Descartes, la vérité dans la pensée est parfois un peu individuelle. Descartes était aussi un bon chrétien, mais la dérive s'est amplifiée ensuite avec ce qu'on appelle la philosophie des dites Lumières, Hegel, Kant. Et malheureusement, bon, il y a pas mal d'historiens de la pensée, de la philosophie, qui disent que le nazisme et le communisme, le New Age, le gender actuel, c'est un héritage de cette dérive idéaliste-là. On n'accepte plus le réel, donc un jour je peux me dire dromadaire, le lendemain, ben, même chez des jeunes, malheureusement, il y a ces problèmes-là, ou le changement de sexe. Alors, donc chez ces pères orientaux, il y a beaucoup plus le sens de l'incarnation. Ils n'ont pas eu cette dérive-là de la pensée. Jacques de Sarrougue, notamment. Alors, les plus connus avec Jacques de Sarrougue, on en verra quelques-uns. Il y a aussi, évidemment, Éphrem le Syrien, père de l'Église du IVe siècle, donc avant la séparation avec l'Église romaine, alors que Jacques de Sarrougue, c'est d'après. après la séparation du concile de Chalcédoine, le concile central sur les sept chronologiquement. Donc il décrit Marie comme arche d'alliance, comme l'arche pleine de mystères. Alors, ce sont des images beaucoup plus bibliques, c'est beaucoup plus enraciné que dans nos litanies de Lorette, par exemple, qui sont tardives, qui sont magnifiques aussi, hein. Mais on peut vraiment les compléter avec cet appui sur le poumon oriental de l'Église. Le mystère, nous l'avons dit l'autre jour, c'est pas une énigme du tout. Ça serait aussi une facilité un petit peu lâche de dire, moi, je comprends pas, alors voilà, c'est un mystère. Les catholiques, parfois, on a aussi cette tendance-là qui n'est pas très bonne, hein. Mais le mystère s'est révélé. Il est grand, le mystère de la foi. Ça vient de chez saint Paul, on le proclame avant chaque communion eucharistique. Mueo, en grec, veut dire faire silence devant une réalité divine ou sainte qui nous dépasse. Donc, Marie est large, pleine de mystères, parce qu'elle porte en elle le Verbe divin éternel, le pain de vie, le sacrement. L'équivalent du mystère en grec ou araméen, c'est le sacrement latin. Sacramentum, au départ, c'est le serment de fidélité de soldat à l'empereur. Donc, ça nous dit quand nous allons communier un mystère ou sacrement, c'est synonyme, soit en grec, soit en latin, c'est aussi un engagement personnel. Je fais serment au roi de l'univers de vivre conformément à ce que j'ai reçu, d'avoir une vie eucharistique. Et pareil pour les autres sacrements, du pardon. C'est pas un petit lavage sans décision de s'améliorer. L'arche pleine de feu, dit Jacques de Sarrougue. Alors souvent, ce sont des textes pleins de poésie. Là, je vous mets juste l'extrait, sinon ça serait trop long de parcourir des chapitres entiers. Mais ce sont des noms que l'on peut prononcer avec dévotion filiale envers la Mère de Dieu et notre Mère. L'arche pleine de feu, parce qu'en elle, elle contient le Seigneur qui est un feu dévorant. Justice 24, un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Elle est la source de lumière, elle n'est pas la lumière elle-même. Les pères occidentaux l'appellent la lune. La lune, elle ne crée aucune lumière, mais elle reflète de façon assez pure. Si vous avez vécu dans des pays près de l'équateur, on peut lire un livre sans difficulté, un soir de pleine lune, par exemple. Donc Marie est la source, pas qu'elle en est la cause, enfin l'origine, mais celle qui lui a donné sa vie comme mère de Dieu. Et elle répand ainsi cette lumière autant les ténèbres du monde. Mère de la lumière, comme chantent les Byzantins. L'arche des Écritures, parce qu'il y avait les tables de la loi dans la première arche, et les évangiles, enfin, le Verbe vivant dans la nouvelle arche d'Alliance. Le deuxième ciel, alors là aussi on peut l'interpréter de différentes manières, c'est jamais univoque, l'interprétation d'une expression poétique. Et ce sont des noms de Marie à méditer. Sur l'affiche jésus1.fr, titre Mario, avec un tiré entre titre au pluriel et Mario, il y a les termes en syriaque translittérés. Ceux qui habitent en région parisienne, ou en Allemagne, ou en Australie, ou au Liban, il y a plein de chrétiens syriaques. Et c'est magnifique d'aller voir leur manière de célébrer dans la langue même de Jésus. Ils ont transformé beaucoup moins de choses que nous, les latins, depuis les premières Eucharisties. Même si l'essentiel est commun et gardé aussi dans l'Église latine, il ne faut pas non plus mépriser les interprétations occidentales quand elles sont respectueuses de l'histoire. Autre nom de Marie, le palais brillant, la maison du grand roi, le temple pur dans lequel le roi habite, et où le roi, le temple, c'est le lieu du culte divin. Le char céleste, donc on peut se représenter Marie qui porte l'enfant dans ses bras, et elle est ce char majestueux, décrit dans Ézéchiel, qui porte la présence du Seigneur. Lorsque le temple de pierre a été détruit, la présence de Dieu n'est pas restée enfermée. C'est la fameuse vision d'Ézéchiel 10, le char sort de temple vers l'Orient, il va visiter les Hébreux en déportation en Babylonie. Le nouveau puits, alors le puits, c'est le lieu de la célébration de l'Alliance. Tous ceux qui ont été en Terre Sainte à Nazareth l'ont vu, mais il y a plein d'autres puits, le lieu des rencontres nuptiales. Moïse et Tsipora, Rebecca et Eliezer, serviteurs d'Abraham, pour qu'elle rencontre Isaac, le puits de Rachel et Jacob, le puits de l'Annonciation, le puits que l'on trouve aussi à Enkarem, où sont la nouvelle alliance, cette rencontre, la sainte rencontre entre Jésus et Jean-Baptiste. Le tabernacle, c'est quinto, alors ça veut dire la tente, hein, littéralement, un tabernacle. C'est beau, chez les Dominicains, par exemple, à Jérusalem, dans la chapelle d'hiver, le tabernacle a vraiment une forme, le tabernacle de la chapelle a la forme de la tente des Hébreux, où il y avait l'Arche d'Alliance au désert. C'est très beau comme symbolisme. C'est parfois rappelé dans les églises, mais alors aujourd'hui, on fait malheureusement, des tabernacles qui ressemblent plus à des frigidaires défoncés dans des décharges, difficile de prier devant eux. Mais parfois, on met un rideau devant, donc ça peut rappeler cette tente, cette demeure terrestre qui ne reste pas enfermée dans le mur de pierre, mais qui nous suit. Quand on a communié, Saint Philippe Néri envoyait des enfants de chœur avec des chandeliers pour accompagner les fidèles qui sortaient un peu trop tôt, parce qu'ils portaient Jésus en eux. La nuée du mont Sinaï, c'est la présence de Dieu, la porte close pour sa virginité, la lettre scellée dans laquelle le secret du Père a été écrit, la terre non labourée qui produit du blé. Alors, ça sont des évocations par les Syriaques avec une certaine tendance sancratite, c'est-à-dire c'était des chrétiens un peu fondamentalistes qui refusaient le mariage. Mais sans avoir cette interprétation vraiment extrême et qui n'est pas juste, ils insistent beaucoup sur la virginité de Marie parce que c'est ce qui convient et ce qui permet sa maternité universelle. Autrement, s'il avait eu d'autres enfants avec Joseph ensuite, ben son devoir d'État, ça aurait été d'abord de s'occuper d'eux, sinon ça aurait été une très mauvaise mère. Donc si Jésus la confie aux disciples sans le nommer au Golgotha, c'est pour qu'elle puisse être mère de tous jusqu'à la fin des temps. Et Dieu savait d'avance que nous aurions besoin de cette figure maternelle qui nous rapproche de son Fils, du Sauveur. La vigne non émondée, donc c'est elle qui donne le vin de l'Alliance nouvelle et éternelle, la terre assoiffée, si elle reçoit l'eau de la vie en elle, le Saint-Esprit, et d'elle germe une toison de Gédéon sur laquelle la rosée est descendue. Elle est la ville forte, alors ce sont des titres vraiment bibliques, le vaisseau du trésor, c'est celle qui porte aux êtres humains qu'il a pris le trésor divin, la jarre neuve d'Élysée. Alors ça se trouve en 2 Rois 2:20, c'est l'affaire de l'eau bénite exorcisée qui chasse les esprits morts dans la ville de Jéricho. Neuf pour sa virginité aussi. Alors, d'autres titres courants d'après les évangiles, les textes bibliques syriaques, elle est mère de Dieu, Notre-Dame, mère... Alors là, je vous ai mis aussi, pardon, ce sont des titres occidentaux. Nous allons voir quelques titres moins connus. Pour avancer, nous allons voir des titres de la tradition grecque, qui sont moins connus chez nous en Occident latin. Quand on parle des orthodoxes, attention, ça désigne plusieurs réalités. Il y a les orthodoxes occidentaux, même s'ils sont en Grèce ou en Russie, on les appelle quand même comme ça, occidentaux. Ils sont un autre Orient, mais par rapport à tous les chrétiens d'Orient, ils sont occidentaux, ils sont en Europe. Les orthodoxes orientaux, alors c'est pas l'orthodoxie des 7 conciles, hein, il y a beaucoup d'églises des 2 ou 3 conciles, certaines n'ont que les 2 premiers, mais ils ont l'essentiel, hein, parce que le symbole de Nicée et Constantinople, ce sont les 2 des 7 premiers conciles. Nicée en 325, le concile, dit le magistère, et Constantinople, qu'il a accompli avec la divinité du Saint-Esprit et a terminé, la forme de cette prière n'a pas changé depuis l'an 380, le premier concile de Constantinople. Et là, eh bien, il y a ce qu'on appelle les chrétiens nestoriens ou baradites qui se sont séparés avant le concile d'Éphèse. Donc, ils s'appellent quand même orthodoxes, même s'ils n'ont pas la totalité des 7 conciles, jusqu'à Nicée II en 757, parce qu'ils ont l'essentiel, Nicée 1 et Constantinople 1. Alors, chez les chrétiens orthodoxes occidentaux, nous avons le secours des chrétiens toujours exaucé, l'auxiliatrice, alors ensuite ça a filtré, heureusement, hein, beaucoup de choses sont arrivées chez nous, comme le monachisme qui est né en Orient, et beaucoup de pères grecs ont été traduits, heureusement, la toute sainte. Quand parfois on nous critique, ouais, les catholiques, vous êtes permis d'ajouter le dogme de l'Assomption en 1950 et l'Immaculée en 1854. c'est pas une invention tardive de l'Église. C'est la proclamation publique de vérité de foi contestée. Donc, il y a des moments où ça devient tellement aberrant ce que l'on entend, ou les attaques contre la foi et la vérité, que le pape, c'est sa mission, proclame au monde ce qui a été cru par tous, partout et depuis toujours. Ça, c'est la définition de la règle de foi, selon un très grand saint territoire français, Saint-Vincent de Lérins, en 425, en face de Cannes. La foi, même quand tout n'a pas encore été formulé, c'est ce qui est cru par tous, partout et depuis toujours, et en particulier auprès des pères de l'Église proche de la Terre Sainte, parce qu'ils avaient cette pensée à la fois sémitique, juive. Sémitique, ça vient de Shem, des trois fils de Noé, c'est l'ancêtre de tous les habitants du Moyen-Orient, alors que nous, les Européens, les Asiatiques, on est les descendants de Yafet, ça veut dire le beau. Ça ne veut pas dire qu'on est plus beau que les autres, mais c'est le nom biblique. Et puis Ham, ça veut dire le brûlant, c'est le père des Africains. Et comme par hasard, Jérusalem est à l'intersection de ces trois plaques tectoniques et de ces trois groupes anthropologiques. C'est le nombril de l'univers. Et donc, chez les pères près de Jérusalem, ben, on parle de la dormition de Marie et de Marie sans tache. Dès le IVe siècle, dès la fin des persécutions, on trouve cela notamment chez un des pères de l'Église qui vient directement de la Décapole. On peut dire que sa famille a été évangélisée par le Christ lui-même qui parcourait la Décapole, les 10 villes de culture gréco-cananéenne de l'autre côté du Jourdain. Il y en a juste une qui se trouve côté Israël. Et donc, il a transmis une foi qui est crédible, qui est de confiance, théotechne de Livia. C'est un oasis qui se trouve juste en face de Jéricho, côté jordanien. Ça peut se visiter. Quand donc certains Grecs nous reprochent l'Immaculée, ben, on est d'accord avec vous, mais pourquoi est-ce que vous êtes permis de changer l'expression? Ben, en fait, c'est juste l'interprétation latine, immaculata du cantique, du terme grec panagia. Elle est toute sainte. Ben, le synonyme panagia, pan c'est tout, agios, agia c'est sainte. C'est exactement la même chose que immaculée. La seule chose qui nous sépare malheureusement encore de nos frères byzantins, et ça, des théologiens ou pasteurs orthodoxes de bonne volonté le reconnaissent, ceux qui ne sont pas trop frustrés par la croissance de l'Église catholique, la seule chose qui nous sépare encore, c'est le mode d'exercice de la primauté de Pierre, qui est révélé plus de 20 fois dans les Écritures, mais pour eux qui sont très marqués par les néo-platoniciens, Plotin et d'autres, pour eux, ça reste dans les idées. Ils ont une manière de penser un peu idéaliste, alors que nous, en Occident, on est plus aristotélicien, et donc ça doit s'incarner. Quand on reconnaît que Pierre est le premier, ben la conséquence, par exemple, sont les excommunications automatiques du 1er juillet. Et ils confessent de bouche, mais pas en action, la primauté de Pierre. Et d'un certain point de vue, malheureusement, la fraternité Saint-Piedis est plus éloignée des orthodoxes qui n'ont pas fait une décision récentes eux-mêmes en conscience de se séparer. Et les anathèmes qu'il y avait avec les orthodoxes ont été levés par Athénagoras de Constantinople et Paul VI en 1964. Donc, en fait, on est plus proche, malheureusement, canoniquement, des orthodoxes que de la FSPX, même si la FSPX, Fraternité Saint-Piedis, a une messe plus proche de la nôtre, dans les faits. Autre titre orientaux de Marie, la Panakrantos. Ça veut dire « toute sans tache ». Alors, pardon, mais si ce n'est pas immaculé, ça, c'est quoi, hein? Porteuse de la bonne nouvelle, Evangelistria. Alors ça, en araméen, l'évangile, sabra, ça veut dire l'espérance. Donc quand j'ai l'évangile dans mes mains, j'ai mon espérance, l'espérance de toute ma vie. C'est la vertu théologale qui est la moins comprise, creusée, pratiquée, coopérée des trois. C'est important de la creuser davantage. Hein, la petite sœur espérance, petite fille espérance des Peggy. Celle qui délivre du poison. Le pharmacon, c'est une potion abortive. Hein, et ça, c'est clairement dénoncé dehors les avorteurs, dit le livre de l'Apocalypse. Alors, s'ils se repentent, ça va, hein, mais hein, tant qu'il n'y a pas de repentir, il y a trop d'orgueil, c'est pas très bon, pas un bon plan pour eux. Qui délivre de la peine. Donc, quand on se sent affligé, Marie la consolatrice, l'hôpital des pécheurs, ça c'est des titres occidentaux latins, parallèles. Elle est l'invincible stratège, hypermakos, stratégos. C'est des beaux titres, c'est Marie comme une guerrière. Elle n'est pas juste douce, voire doucereuse, elle a une force dans sa douceur. D'ailleurs, c'est la seule vraie force en réalité. Elle donne la victoire, Nikopoya, comme la marque des chaussures Nike, ça veut dire la victoire, Niké en grec. Et c'est plus qu'elle donne. Poya, c'est le verbe de la création. Elle fait la victoire. Grande grâce, donc kekaritomene, c'est gracié, littéralement, c'est un participe passé parfait en grec, avec un effet présent et éternel, donc futur aussi, si Dieu en a disposé ainsi. Et donc, ce n'est pas une petite grâce, c'est la grâce qui résume toutes les autres. Donc, dans des traductions protestantes minimalistes de l'Annonciation, on va lire « Marie à qui une grâce a été faite ». Et donc, ils attaquent Marie, malheureusement, mais juste la grâce de la maternité divine, qui est le dogme marial fondamental, ça inclut tout le reste de ce qu'on peut dire sur Marie. Et leur problème à eux, c'est que s'ils disent moins de Marie, ben ils finissent par en dire moins sur Jésus et faire n'importe quoi à la fin. Certains d'entre eux, je ne généralise pas du tout, on a beaucoup appris et on a beaucoup à recevoir de nos frères évangéliques en général. Elle est aussi la guérissante, ça ne veut pas dire que la seule guérison, ça c'est Jésus, mais Marie est guérissante parce qu'elle participe à la grâce du Christ. Corédentrice, là, c'est le titre occidental latin, mais on peut le dire malgré le texte de du dicaster pour la doctrine de la foi de l'année passée. Il y a eu une correction ensuite par le cardinal Fernandez pour dire que c'était seulement quand on parlait en théologie entre nous, mais que dans la dévotion et dans la prière, on peut tout à fait continuer de l'invoquer comme elle a été priée pendant des siècles et des siècles, y compris en Orient. Texte Mater Populi Fideis, contre lequel ont protesté tous les théologiens et mariologues les plus grands du monde. Ils n'ont même pas été consultés avant le document, il y a un léger problème. Et après, ils ont fait deux suppliques et on attend la réponse, qui est une correction encore plus claire. Parce que si on diminue ce qui a été cru par le peuple de Dieu, comme le peuple de Dieu qui a défendu la foi en l'Eucharistie, en la présence réelle au Moyen-Âge, à l'époque de Joachim de Flore et d'autres qui refusaient cet élément essentiel de la foi et de la pratique depuis les origines, et si on diminue ce qui a été cru depuis toujours, on finit aussi par en dire moins du Christ et nos contemporains apostasient encore plus vite. Elle est aussi Marie, la sainte protection, plus vaste que les cieux. Alors ça, dans les absides des églises byzantines, très souvent, il y a ce titre-là, Plantutera ton uranon, en grec, ça veut dire elle est plus grande que les cieux que peuvent observer les astrophysiciens, enfin, les observateurs du ciel, parce qu'elle contient l'auteur des cieux. Elle conduit sur le chemin, ça c'est un des très beaux titres dans l'iconographie, Odigitria. Elle nous montre le Christ, le chemin sur son bas. Elle est l'espérance certaine, Bebaya Elpis. Elle est la suppliante. Alors ça, en occident latin, on l'a dit, elle est la toute-puissance suppliante. Alors que Jésus, il est la toute-puissance par essence. Est-ce qu'il est Dieu? Marie est aussi la source de la myrrhe, donc le parfum précieux du bien-aimé. Elle est la fontaine accueillant la vie. C'est le nom d'un des grands sanctuaires de Constantinople. Si vous avez l'occasion de faire un pèlerinage aux sources de la foi, on le fera avec la communauté des Béatitudes sans doute en mai prochain, avec cette église de l'Apocalypse, Éphèse, la Maison de Marie et les églises des sept conciles. Ça aide vraiment à se représenter ces lieux-là. Ensuite, on a comme se sont passés en Israël quand ça allait bien, comme un cinéma d'images intérieures qui nous viennent de ces lieux où nos pères nous ont transmis. Beaucoup sont morts pour défendre ce qu'ils ont confessé et ça nous fortifie, ça nous enracine. Nous allons prendre une petite prière de Nectaire d'Égine. Alors, c'est un père oriental, c'est pas de la Vétoussira non plus. Hein. Égine, c'est une quasi-presqu'île non loin d'Athènes, au nord d'Athènes, au début du XXe siècle. Ô Vierge pure, souveraine, Immaculée et Mère de Dieu, plus élevée que les cieux, plus brillante que le soleil, plus splendide que les cieux, plus pure que la lumière, plus sainte que les multitudes des armées célestes, plus vénérable que les chérubins, et combien plus glorieuse que les séraphins incorporels, plus élevée que les trônes, port du salut, fleur d'incorruptibilité, paradis de joie de l'éternelle vie, source d'immortalité. Je te prie, ô souveraine, je t'invoque maintenant, je te prie, ô reine du monde, j'implore ta grâce. Avec ferveur, je te supplie, ô temple sanctifié, secours-moi, délivre-moi de celui qui me fait la guerre et fais de moi un héritier de la vie éternelle. À la suite, dans cette même fiche, vous avez d'autres titres plus occidentaux si vous voulez continuer la prière. Mais c'est comme quand on lit la parole de Dieu, ce sont des noms de notre Mère du Ciel et de la Mère de Dieu à méditer, à intérioriser. Ça nous permet, quand on nomme soit le Christ par ses 120 noms, soit la Vierge par les multiples noms qui ont été développés par la foi, la doctrine. Doctrine, c'est une autre manière de dire enseignement, par la dévotion chrétienne. C'est authentifié parce que il ne s'oppose pas au symbole de Nicée-Constantinople, c'est authentifié par de nombreux saints. Ce ne sont pas des prières modernes loin des sources bibliques et de l'histoire, c'est authentifié par tous ceux qui nous ont précédés, ces saints, ces docteurs, ces pères de l'Église. Donc que la Mère de Dieu veille sur nous, que nous la servions toute notre vie, elle qui est le chemin le plus direct vers le Seigneur, que nous la rendions présente dans nos maisons pour aller plus vite vers Jésus sans nous tromper. Elle qui nous prend sous son manteau, avec tous ses titres glorieux. Elle est la mère du roi, assise à la droite de son fils, selon l'épisode de David et Bethsabée. C'est pour ça qu'aussi dans les abcines des églises antiques de Rome, on représente le Christ au fond, au centre de l'abside, Jean-Baptiste à sa gauche et Marie à sa droite. Donc quand les apôtres demandent, promets-nous d'être assis à ta droite et à ta gauche dans le ciel, le Christ répond, il y a déjà du monde. En fait, à la gauche de Jésus, il y a aussi, mais en haut à gauche, Dieu son Père, parce que le Fils est assis à la droite de Dieu le Père. Ces images de l'abside, parce que l'art sacré exprime aussi notre foi, l'architecture sacrée aussi, ils ne font pas des églises tarabiscotées, triangulaires, qui cassent le symbolisme, c'est contraire à la nature humaine, ça représente les mystères de la foi. Et donc c'est ce que les orientaux appellent la déesis, la liturgie céleste, ça nous rappelle qu'on est unis à ce moment-là avec l'Église invisible. Il y a une distinction, mais jamais une séparation avec tous les saints et les anges. Catalina Rivas, grande mystique bolivienne qui vit au Mexique actuellement, voit une grande fosse devant tous les autels, et donc les âmes du purgatoire qui supplient « mais communiez pour moi ». Les anges qui nous accompagnent, chaque ange gardien aussi. Et puis le ciel ouvert avec Jésus derrière l'autel, Marie, Jean-Baptiste et Joseph. Les éditions des Béatitudes, donc on prépare une énorme Bible francophone. Il y a comme un rattrapage actuellement dans les travaux bibliques avec les Bibles anglophones ou évangéliques parfois, où il y a tout un effort pédagogique qui a été fait depuis une quinzaine d'années pour rendre intelligibles les difficultés du texte. Ce qu'on voit avec l'Eunuque éthiopien, acte 8, 32, comment comprendrais-je si on ne me guide ? Et actuellement, les grosses bites d'études que nous avons, mais parfois il y a deux petites notes en bas de page, et il y a plein de versets qui ne sont absolument pas expliqués. Donc là, on rattrape, on va mettre plus de 18 000 notes, puis on va avoir un texte hyper littéral. Donc soyez prêts, d'ici 2 ans, il n'y aura pas seulement les 4 évangiles d'après l'araméen, il y aura les 73 livres en respectant la polyphonie des sources. La Betusira, il me semble qu'à la grande librairie du sanctuaire, ils n'ont plus que la petite version de poche comme un téléphone qui est sans les notes. Alors, c'est le texte traduit littéralement d'après l'araméen. Ça nous déshabitue des traductions habituelles, liturgiques ou autres. Ça montre un Jésus historique de chair juif. Mais si on veut les notes complètes, vous pouvez le commander partout. Fnac, librairie, le site librairie Béatitude sur Internet, Amazon aussi. Ça se commande, mais les titres sont disponibles. À la librairie, ils l'ont épuisé le samedi, mais n'importe où, vous pouvez commander. Le retour des lecteurs, les 4 évangiles de la Vetusira, c'est que ça leur permet vraiment d'approfondir, d'aller plus loin en comparant ce texte ancien, il a 150 ans de plus d'ancienneté que les textes grecs, avec les lectures de la messe. Et ça ouvre des horizons dans la vie spirituelle. On peut pas connaître, on peut pas aimer, pardon, sans connaître. Donc notre responsabilité, c'est de travailler. Parfois, on n'a pas forcément le goût de le faire, mais le faire avec un groupe de prière ou parce qu'on a à transmettre à d'autres personnes, faire de la catéchèse à des catéchumènes ou à des enfants, ça nous fidélise dans le travail. Moi, je vois que tous les prêtres, comme on a préparé la messe sérieusement, Benoît XVI, en 2010, il n'a pas dit uniquement aux laïcs de travailler le texte chaque jour, il a dit aux prêtres, mais c'est votre boulot de travailler ça en priorité, toute la prédication doit vraiment venir du texte lui-même qui fait autorité. Tout le reste des discours qui s'en éloignent, c'est un peu dommage. Parce qu'on a la totalité de la révélation de l'amour, le visage du Christ dans l'Évangile. Donc c'est d'abord cette source-là. Et donc ce qu'on a produit à l'école biblique, là, ça, déjà, il y a 3000 notes pour 3700 versets, juste pour les quatre Évangiles. On a mis pas mal de tableaux transversaux. Page 338, il y a un index d'une cinquantaine de tableaux de synthèse pour comprendre l'Évangile. Les figures de Joseph, qui est Saint Joseph, par exemple, grâce aux annonces de Joseph dans l'Ancien Testament, ou le Saint-Esprit, ou les 24 « Je suis » dans l'Évangile, des lectures transversales, on transmet des centaines d'années de travail des pères de l'Église et docteurs, on le rend accessible aujourd'hui. Bénédiction sur vous et bonne suite de pèlerinage.